l'implication rapide de dirigeants de l'IGAD, notamment du premier ministre éthiopien et du président kényan, ça joue un rôle extrêmement important. Bon, aller vers un cessez-le-feu était certainement quelque chose d'essentiel, mais demande des mesures de vérification qui sont très difficiles à mettre en œuvre rapidement, compte tenu de ce qu'est le Sud-Soudan, de la nature des affrontements et également de la mauvaise volonté de part et d'autre des protagonistes. Mais malgré tout, disons, il faut pas désespérer de ce point de vue-là, ce qui est effectivement inquiétant, mais en même temps pas essentiellement surprenant, c'est le fait que, d'une certaine façon, puisque chacun des deux camps comprend qu'on va aller à la négociation, il y a une volonté d'en découdre et d'arriver à la table de négociation avec un rapport de force bien meilleur qu'il n'est aujourd'hui.
Néanmoins, la base de départ de discussion est nouvelle et l'implication des pays africains, c'est un signe quand même positif.
Ah, c'est extrêmement positif. Évidemment, il ne faut pas se cacher derrière eux. Je crois qu'ils jouent l'Éthiopie au niveau sécuritaire, le Kenya au niveau économique, mais derrière eux, évidemment, une communauté occidentale extrêmement soudée, unanime dans la recherche d'un cessez-le-feu et d'une pacification. Bon, tout ça joue quand même en faveur de la paix. Alors ça ne sera pas suffisant. On se souvient que dans le passé, ça n'a pas été suffisant. En 1991, et ça a duré pendant de trop longs mois, en fait plusieurs années. Mais malgré tout, on est dans un contexte un peu différent où il y a d'autres mesures possibles et également, disons, si vous voulez, l'idée d'aller à la guerre pour la guerre n'a plus grand sens aujourd'hui que le Sud-Soudan est indépendant.
Alors justement, l'Union africaine a haussé le ton ce matin en menaçant de sanctions ciblées à tous ceux qui inciteraient à la violence, surtout ceux qui inciteraient à la violence ethnique. Est-ce que cela peut amener à une forme de sagesse de la part des deux parties?
Oui, alors de la part au moins de certains de leurs dirigeants qui ont quand même, si vous voulez, il ne faut pas non plus là penser qu'il y a les bons et les méchants. Hein. Des deux côtés, on a mis beaucoup d'argent de côté et en général, on l'a investi plutôt au Kenya, en Ouganda qu'au Sud-Soudan. Donc des sanctions qui toucheraient au portefeuille de ces dirigeants auraient quand même un impact fort. Le fait que l'Union africaine accepte d'aller tout de suite à ces mesures, disons, de rétorsion financière, aura un impact réel.
Est-ce que la jeune République du Sud-Soudan va pouvoir se relever de toutes ces tensions ou il est trop tôt pour le dire ?
Je crois que tous les observateurs, les gens les plus admiratifs, disons, de la lutte des Sud-Soudanais et ceux les plus sceptiques sur la solution qui a été trouvé, tous admettaient que la première génération, c'est-à-dire celle qui aujourd'hui est en train de vivre l'indépendance du Sud-Soudan, souffrirait beaucoup parce que le leadership est de très mauvaise qualité, parce que le pays est dans un état déplorable, parce que d'une certaine façon aussi la rente pétrolière crée autant de problèmes qu'elle apporte de solutions. Donc c'est sans surprise, mais si vous voulez, on est aujourd'hui, et c'est sans doute ça qui réunit malgré tout tous les Sud-Soudanais, c'est-à-dire le fait que l'indépendance du pays leur donne de nouveaux droits, de nouvelles espérances et que sans doute les années qui viennent vont être des années extraordinairement difficiles au-delà de ce premier affrontement, mais qu'en même temps, disons, leurs enfants ou leurs petits-enfants, eux, vivront bien mieux.